Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour
Ce matin,
Guillaume.
Difficile de s'y retrouver.
Oui, c'était il y a un peu plus de 10 ans, face aux icebergs du Groenland, frappés par la fonte des glaces. Angela Merkel prenait la pose en anorak rouge, accompagnée de son ministre de l'Environnement de l'époque, un social-démocrate. La chancelière était venue constater in situ les effets du réchauffement climatique. La photo fera le tour du monde, avec en légende ce surnom élogieux qui ne la quittera plus pendant une décennie, celui de Klimakanzlerin, la chancelière du climat. Et depuis, l'objectif ambitieux de l'Allemagne était resté invariablement le même, réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2020. Sauf que les différents partenaires qui, depuis le début de la semaine, négocient la formation du prochain gouvernement viennent, ni plus ni moins, d'enterrer le projet. Désormais, écrit le journal de Berlin, Tagesspiegel, la CDU et le SPD ne paraissent plus animés de la volonté nécessaire. En réalité, chez les conservateurs, l'objectif avait déjà commencé à se fissurer lors de la première tentative de négociation avec les Verts et les Libéraux, mais au final, il semble bien que ce soit le SPD qui ait achevé d'enterrer les objectifs climatiques de l'Allemagne, et ce pour des raisons purement tactique en clair, parce que cela leur permet de décrédibiliser tout simplement Angela Merkel. Reste que c'est aujourd'hui l'image du pays tout entier qui en prend un coup, note pour sa part la correspondante du Temps. L'Allemagne perd ainsi son rôle de locomotive environnementale, et ce même si le pays réalisera les objectifs nettement moins ambitieux que s'est fixé l'Union européenne dans le cadre de la conférence climat de Paris. A l'inverse, Donald Trump a lui surpris tout le monde hier en affirmant que les États-Unis pourraient en théorie revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Sauf, précise USA Today, qu'à ce stade, le président n'a donné aucun signe concret qu'il entendait aller dans cette direction. Il a même répété qu'il était pour le pétrole et le gaz et tout le reste, non sans en profiter également pour tacler son ancienne rivale Hillary Clinton. Elle était pour les moulins à vent, a lancé le président américain.
Et difficile également, Thomas, de s'y retrouver ce matin, s'agissant cette fois-ci du dossier nord-coréen.
Oui, au cours d'une conversation téléphonique hier avec son homologue sud-coréen, le président Trump a indiqué qu'il était, je cite, ouvert à des pourparlers directs entre les États-Unis et la Corée du Nord, en temps et en heure, et si les circonstances s'y prêtent. Reste qu'une information suffit à illustrer combien la situation reste en réalité volatile. Selon The Wall Street Journal, les autorités américaines s'interrogeraient dans le même temps sur la possibilité de lancer une frappe militaire limitée contre des objectifs nord-coréens. C'est la stratégie dite du bloody nose, du coup sur le nez. En clair, si un nouvel essai nucléaire ou un tir de missile venait à se reproduire, une frappe ciblée serait alors menée contre un site nord-coréen afin de donner une bonne leçon à Pyongyang et montrer ainsi au régime que son comportement pourrait lui coûter cher, tout en espérant que cette mise au point musclée ne provoque pas une riposte nord-coréenne de grande envergure. Évidemment, c'est une idée extrêmement risquée. D'ailleurs, au sein de l'administration Trump, d'aucuns se demandent si elle est applicable. Et le journal de rappeler que les Nord-Coréens disposent d'un nombre impressionnant de pièces d'artillerie de l'autre côté de la zone démilitarisée, braquée sur Séoul, qui leur permettrait de faire des milliers de tués et de blessés s'ils décidaient de se livrer à un tir de barrage. Sans compter qu'à ce danger s'ajoute désormais la menace d'un recours à une arme nucléaire s'ils optent pour l'escalade en représailles à ne serait-ce qu'une unique frappe. Mais comme toujours dans l'administration Trump, l'inconnu, c'est donc surtout le président lui-même. Enfin, le quotidien de la capitale fait également état d'une mini-tempête hier sur les réseaux sociaux. Après une série de tweets qui, pour une fois, n'était pas l'œuvre du président, mais d'un responsable du Pentagone, John Wayne Troxell, ça ne s'invente pas, a dégainé plusieurs avertissements à l'adresse des combattants de Daesh. Ils doivent comprendre qu'ils ont deux options quand ils se retrouvent face à nous, se rendre ou mourir. S'ils se rendent, nous assurerons leur transfert en toute sécurité vers leur cellule. En revanche, s'ils choisissent de ne pas se rendre, alors nous les tuerons en leur lançant des bombes, en leur tirant une balle dans le crâne ou en les frappant à mort à coups de pelle. Aux réactions indignées des internautes, le militaire a aimablement répondu en publiant une illustration. Comment utiliser une pelle à des fins létales, avec ce commentaire: presque tous les soldats en portent, c'est une arme formidable.
Enfin, la solidarité féminine se fissure dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein.
Oui, mardi, 100 femmes, dont Catherine Deneuve et la journaliste Elisabeth Lévy, co-signaient une tribune à contre-courant. En substance, pas question pour elles de céder à la vague purificatoire. Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. Et les réactions à cette tribune ont été extrêmement nombreuses dans la presse étrangère, relève le Courrier international. Beaucoup notamment estiment que cette tribune ne pouvait être publiée qu'en France. Pourquoi ? Parce que dans un pays dont la culture se caractérise depuis des siècles par le libertinage et la galanterie, la police du puritanisme puritanisme, écrit Die Welt, ne pouvait pas œuvrer longtemps sans susciter de résistance. Jamais une telle lettre ne serait publiée ici au Québec, précise de son côté une chroniqueuse du Journal de Montréal, mais si elle l'était, dit-elle, je la signerais. La prise de position du collectif est le premier acte véritable de féminisme depuis le début de l'affaire Weinstein, se félicite à son tour une journaliste de La Nazione. La France est la nouvelle avant-garde du monde libre, titre pour sa part Il Foglio. Reste qu'au cœur de ce débat, un conflit générationnel entre la vieille garde et les tenantes d'un féminisme renouvelé semble à présent émerger, note le temps. Aussitôt après la publication de cette tribune, un autre collectif de féministes a en effet rétorqué. Pour elle, pas question de laisser des représentantes du vieux monde entretenir une délicate ambivalence entre drague et agression et refermer ainsi la chape de plomb à peine soulevée.